L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio, l'AJT du local, votre quotidienne. Et à l'occasion des semaines d'éducation contre les discriminations portées dans le département par le collectif Unissons nos différences, vous le savez, on vous propose depuis lundi de découvrir quelques-unes des nombreuses associations qui composent ce collectif. Et donc aujourd'hui, ce mercredi, place à la section mayonnaise de la Ligue des droits de l'homme.
Alors, je suis Anne de Georges, je suis adhérente à la Ligue des droits de l'homme depuis un an et demi maintenant.
Pour ma part, Alain Vignier, je suis président de la section de la Vallée de la Mayenne de la Ligue des droits de l'homme depuis bientôt 5 ans. Cette section a été créée il y a 6 ans.
Donc la Ligue des droits de l'homme, donc vous dites à Laval, elle a été créée il y a 6 ans, mais c'est une section départementale d'une association nationale engagée sur beaucoup, beaucoup de sujets. Justement, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots un petit peu le champ d'action, on va dire, de la Ligue des droits de l'homme ici en Mayenne ?
Alors, la Ligue des droits de l'homme a été créée en 1898 dans un contexte précis et autour d'un sujet précis, qui était l'affaire Dreyfus. Alors, je ne sais pas si l'affaire Dreyfus rappelle quelque chose à beaucoup de gens aujourd'hui, mais ça serait bien néanmoins, puisque l'affaire Dreyfus, c'est l'histoire d'un capitaine de l'armée française qui a été accusé à tort de complicité avec l'ennemi à l'époque, en l'occurrence les Allemands. Les raisons principales de l'hostilité qui s'est développée à son encontre étant liées à ses origines juives, avec en plus une collusion entre les menées anti-républicaines et certaines sphères des états-majors des armées françaises à l'époque. Donc ça, c'est la base de la création de la Ligue des droits de l'homme, qui s'est constituée pour soutenir Émile Zola lorsqu'il avait écrit son article « J'accuse » et qu'il s'attendait pour cette raison à être poursuivi en justice. Et depuis, la Ligue des droits de l'homme a été de tous les combats, sous des formes diverses et variées, pour faire prévaloir et pour assurer la promotion, effectivement, des libertés publiques, des libertés individuelles et des différents droits, avec un rôle de vigilance et de référence et de conseil au niveau national et au niveau international sur toutes ces questions-là. Et un membre très éminent de la Ligue des droits de l'homme, René Cassin, est décédé depuis un certain temps, a été l'un des principaux rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il y a bien d'autres textes qui ont été inspirés par les réflexions de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme est une organisation nationale, une association nationale. Donc chacun d'entre nous, lorsqu'il souhaite adhérer, adhère à cette association nationale. Il n'empêche que cette association nationale prévoit dans ses statuts que les adhérents localement peuvent s'organiser en section, c'est-à-dire se retrouver pour échanger entre eux et aborder les grands thèmes qui sont la raison d'être de la Ligue des droits de l'homme, à la lumière des situations locales. Donc il y a une section qui a été créée en Mayenne il y a 6-7 ans maintenant. Il y a à peu près 300 sections globalement en France, hein, des départements il y en a plusieurs, des départements où il n'y en a pas. En Mayenne, il y en a une seule, et nous sommes bientôt une trentaine d'adhérents. Donc nous nous retrouvons tous les mois, en vidéo ou en présentiel, bien évidemment, c'est et nous échangeons entre nous et nous évaluons ce qui a été fait, nous débattons de ce qu'il y a à faire et on est surtout beaucoup en lien avec d'autres organisations, en particulier au travers de plusieurs collectifs. Je citerai bien évidemment Unissons nos différences, dans lequel la section est rentrée en 2015, d'abord pour s'associer à la démarche générale d'Unissons nos différences et ensuite pour essayer de mener quelques actions qui lui soient propres dans le cadre des semaines d'éducation contre les discriminations. Mais nous intervenons également auprès d'un ensemble d'associations qui sont liées aux problématiques accueil des migrants, lutte contre la grande précarité et hébergement d'urgence, collectif qui s'appelle le collectif d'entraide et d'initiative sociale, le COLEDIS, où on joue un rôle qui est propre, je dirais, à ce qu'est la LDH.
Justement, l'action de la Ligue des droits de l'homme est souvent, au niveau local, fédératrice. comme ça a été le cas pour la mobilisation contre la loi sécurité globale, où c'est à l'initiative de la NDH que s'est créé le collectif d'organisations diverses. Il y a 14 organisations qui ont suivi l'initiative de la NDH pour cette mobilisation contre la loi sécurité globale et de façon plus générale maintenant contre les lois sécuritaires et liberticides hein, qui se suivent depuis quelques mois.
Dans un passé relativement récent, quelques thèmes sur lesquels, enfin, thèmes importants sur lesquels ont été mobilisés, ou seuls ou en liaison avec des organisations, dans le cadre des collectifs, le thème de la laïcité. Par exemple, avec la libre pensée, avec la ligue de l'enseignement, dès que le sujet laïcité émerge, soit après des interventions d'Emmanuel Macron qui avait posé un problème par rapport à une volonté exprimée de toucher à la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, soit pour accompagner des sessions de formation de personnes en situation scolaire ou de relation avec le public au niveau des administrations sur le sujet de la laïcité, soit pour aller contacter même des représentants des mosquées de Laval lorsqu'il y a des questions de laïcité en rapport avec l'islam qui sont soulevées. C'est un thème sur lequel on est très présent ou très disponible par rapport à ce thème-là. Dans le cadre du collectif Colédis, on a été également actif ou un peu une force un peu fédérative, comme le disait Anne, d'impulsion, pour intervenir à plusieurs niveaux sur la politique migratoire telle qu'elle s'exprime au niveau local. Alors, il y a eu deux ou trois volets en particulier. Le premier, ça a été une action coordonnée auprès des élus au moment de la discussion de la loi Colo de 2017 sur la nouvelle loi, une énième loi sur les questions migratoires. Nous avons eu également des contacts et une action dans le sens de la recherche d'un dialogue et d'un échange sur les difficultés avec le conseil départemental sur l'accueil des mineurs étrangers isolés ou des mineurs non accompagnés. Nous avons eu également à plusieurs reprises des interventions au niveau de la préfecture et auprès du préfet en lien avec d'autres organisations, c'est-à-dire en accompagnement d'autres organisations sur les conditions dans lesquelles fonctionnel service des étrangers de la préfecture.
Je voudrais ajouter aussi un autre exemple de travail au niveau local. La LDH a travaillé sur la biométrie dans les collèges et les établissements scolaires au niveau du département avec une réflexion sur l'intérêt de cette technologie intrusive et qui objective le corps des enfants, hein, qui permet l'identification des personnes à partir d'une partie du corps. Donc c'était à partir d'exemples locaux, de situations locales mayonnaises, que cette réflexion sur la biométrie et sur le respect des données personnelles que la Ligue des droits de l'homme a travaillé, a alerté, y compris l'inspection académique et puis le département.
Pour revenir sur la loi sécurité globale, est-ce qu'on peut réexpliquer un petit peu tout votre engagement depuis plusieurs mois déjà contre ce texte de loi ici en Mayenne ?
D'une manière générale, depuis la proclamation de l'état d'urgence qui a fait suite aux attentats de janvier 2015, la LDH, au niveau national et au niveau local également, a été très vigilante ou très mobilisée autour de ce que signifiait cet état d'urgence, autour de la façon dont il était mis en œuvre et surtout, s'est élevé contre les reconductions successives de l'état d'urgence et ensuite, par l'inscription dans le droit commun, un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence qui, alors qu'elles doivent être exceptionnelles, sont devenues quasiment la normalité législative pour un certain nombre d'entre elles. Voilà. Et la loi sécurité globale est une loi qui s'ajoute à un ensemble de dispositions sur le thème de la sécurité, qui est un thème très démagogique à la limite, ou auquel il n'y a pas de bonne pédagogie qui est faite par le personnel politique à l'heure actuelle. C'est un thème dans lequel se sont laissés entraîner ou se sont rués volontairement les gouvernements successifs, quelles que soient les colorations politiques. Et cette loi sécurité globale a représenté pour beaucoup de gens, beaucoup d'organisations, et la Ligue des droits de l'homme, le coup de trop, ou représente le coup de trop, dans la mesure où il y a un ensemble de dispositions à l'intérieur de la loi qui confirment des pouvoirs exorbitants donnés à l'administration, c'est-à-dire aux préfectures et à la police, aux forces de maintien de l'ordre. Et d'une part, mais Anne pourra être plus explicite que moi sur ce sujet-là, et puis surtout succombe, si on peut dire ça, à la fascination technologique, donc à ce que certains appellent le solutionnisme technologique, c'est-à-dire de dire à partir du moment où on a avec les nouvelles technologies, et en particulier, ce qui rejoint le point précédent sur la biométrie dans les collèges dont parlait Anne, en particulier avec la capture d'images et les possibilités fantastiques, il faut le reconnaître, qui progressent encore tous les jours, de traitement des images par intelligence artificielle et de reconnaissance faciale, il nous est apparu que le législateur, poussé par l'exécutif, dans un déséquilibre entre l'exécutif et le législatif, que le législateur se laissait entraîner sans avoir pris vraiment le temps d'évaluer complètement ce qui était en train de se faire, je dirais, par la fascination technologique, d'une part, et puis se laisser un peu trop guider par les institutions de la police, qui certes ont leur rôle à jouer, mais ce n'est pas elles de dire le droit.
Je vais revenir un petit peu sur le détail de la loi, ce qui a... D'abord mobilisé, c'était l'article 24, hein, le fameux article 24 qui prévoyait de punir la diffusion d'images des forces de l'ordre dans leur action si cette diffusion était dans le but qu'ils soient portés atteinte à l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre, avec un changement de paradigme où la personne qui faisait la prise d'image peut être soupçonnée d'emblée d'avoir des intentions malveillantes. Donc on passe du fait de punir une infraction au fait de punir un soupçon, une intention, une éventuelle infraction prévue plus tard. Alors le danger de cet article 24 était s'il est adopté, il peut rendre impossible la captation d'images des forces de l'ordre en action et donc ça, il porterait atteinte à la fois au droit d'informer, à la liberté d'expression également. Donc ça a été le premier article qui a mobilisé. L'examen plus approfondi ensuite du projet de loi nous a permis de voir qu'il y avait d'autres articles qui étaient tout aussi dangereux et liberticides, notamment l'article 1 qui étend le pouvoir des polices municipales qui agissent sous le contrôle des maires, donc qui risque d'entraîner une rupture d'égalité entre les citoyens, puisque la police municipale qui est donc sous le contrôle des maires n'aurait pas forcément ni les mêmes moyens, ni les mêmes actions dans les différents territoires suivant la coloration du maire, les possibilités du maire. Il y a aussi également l'extension de la délégation plutôt d'un certain nombre de missions régaliennes de la police nationale envers les polices municipales et les entreprises de sécurité privée, avec, par exemple, les contrôles d'identité, la palpation qui pourrait être faite par un nombre beaucoup plus important de personnes qui ne seraient donc plus l'apanage de la police nationale. Il y a également les articles concernant la captation d'images par les caméras embarquées par les policiers. Ces images pourraient être donc accessibles en direct par le poste de commandement avec éventuellement l'utilisation de la reconnaissance faciale. Même chose pour la légalisation des drones, alors que le Conseil d'État, par deux fois, a interdit l'utilisation des drones en manifestation ou pour le contrôle du respect des règles sanitaires dans le cas du confinement. Cette utilisation des drones serait donc légalisée grâce à cette loi sécurité globale, avec là aussi une possibilité d'utilisation de la reconnaissance faciale et donc une atteinte à la fois à la vie privée, puisqu'un drone capte des images de la rue, des appartements, des images avec une résolution très fine permettant d'identifier les personnes. Donc, atteinte à la vie privée, atteinte également au droit de manifester, puisque les personnes se sachant identifiées et filmées peuvent hésiter avant d'aller en manifestation. C'est donc l'ensemble de cette loi que nous combattons, parce que c'est un changement de projet de société. L'espace public, si cette loi était adoptée, l'espace public deviendrait en fait un espace de surveillance massive, généralisée, constante, de chaque citoyen. Donc on part d'un espace public partagé et en accès libre à un espace public surveillé dans lequel le citoyen est suspect d'emblée. Il doit être surveillé parce que suspect d'action possible.
La Ligue des droits de l'homme, vous l'avez compris, reste très mobilisée dans le combat contre la loi dite sécurité globale. Pour les joindre, vous pouvez envoyer un mail à sectionlaval@ldh-france.org.
Reportage,
invité, interview.
Voilà, c'est la JT du local.